Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure.
Je parle pas de légitimité. Avant moi, il y a eu François Delmas, il y a eu Georges Frêche. Voilà, donc je veux dire, bon, c'est dans le sens, un peu, j'allais dire, un peu du passé.
Cette affiche, elle est rassurante. Elle est rassurante pour les Mitterrands qui savent qu'ils ont une police à leur disposition, une police qui est armée.
Je pense que c'est le signe d'une grande ignorance.
Des vignerons manifestent pour la libération de deux des leurs, détenus après une action contre l'importation de vin italien bon marché.
Hier, c'est demain.
Alors, hier, c'est demain, je sous-titre cette petite chronique « Le passé n'a de sens au présent que pour l'avenir ». C'est un peu la chronique du temps qui passe. Alors, chaque semaine, sur Divergence FM, on profite de la mémoire de Jean-Pierre Foubert pour nous replonger dans l'histoire de la ville de Montpellier. Alors, pas que de la ville de Montpellier. On ira se promener aussi dans le département de l'Hérault. On ira dans la région qui s'appelait Languedoc-Roussillon à l'époque, entre autres. Alors, nous avançons, depuis quelques émissions, nous avançons sur les chemins de l'histoire de la ville de Montpellier. Alors, depuis l'élection en 1977, un peu surprenante d'ailleurs, d'un nouveau maire, déjà député, qui s'appelle Georges Frêche. Et ben les premiers pas sont passés. Là, on avance un petit peu dans ce premier mandat. Et quelle sera la stratégie pour bousculer cet immobilisme et quelle alliance va pouvoir, ou du moins quelle voix va-t-il pouvoir compter pour se faire réélire ce Georges Frêche? Alors on laisse à Jean-Pierre, qui lui n'était pas dans l'équipe municipale à cette époque-là du tout, hein, mais qui avait fait la campagne municipale. Alors, qu'est-ce qu'il fait Georges Frêche? Il est là, il est à la mairie, il est député, il est maire, il commence à avoir le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait comme stratégie?
Alors d'abord, je l'ai déjà évoqué précédemment, Georges Frêche est d'abord soumis à un rapport de force politique, non pas vis-à-vis d'adversaires, hein, vous l'avez rappelé la dernière fois, l'opposition n'est pas représentée à cette époque-là dans un conseil municipal, mais à l'intérieur de son propre conseil municipal.
Et à l'intérieur de son parti.
Voilà, et de son parti, il est même victime d'une tentative de putsch avec des gens qui ne croyaient pas à la victoire à Montpellier du Parti Socialiste et qui se disent il faut effectivement pousser Frêche un petit peu vers la sortie. Et là, il y a effectivement un personnage, j'évoque son nom, deux personnages qui ont le même nom, qui s'appellent Roseau. L'un s'appelle Gilbert Roseau, il est dans l'équipe municipale, et l'autre s'appelle Jacques Roseau, et il est le patron d'un mouvement pied noir qui s'appelle Le Recours, un mouvement national. Et Jacques Roseau, qui est très ami, d'ailleurs très lié à Jacques Chirac, va aider Georges Frêche en amenant, je dirais, la communauté pied-noir.
Ça, c'est une surprise quand même à l'époque. On replace dans le contexte, hein, c'est une surprise.
Oui, je pense
que... C'est gens de droite, normalement.
Voilà, je pense que Georges Frêche va s'appuyer là-dessus pour avoir une politique assez particulière avec les pieds-noirs, qui sont assez nombreux d'ailleurs à l'époque. Hein, 25 000 pieds-noirs sont venus.
Ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, on est en 77, 78, 80, voilà, c'est pas vieux.
Hein. Non, tout à fait, il y a une quinzaine d'années, mais il s'engage à un certain nombre de choses. Il va créer d'ailleurs ultérieurement la Maison des Rapatriés, et il va réorganiser toutes les associations, pas réorganiser, mais aider toutes les associations qui existent.
De rapatriés.
Les anciens d'Alger, de Constantine, de Loranais, bon, etc., etc. Tout un tas d'associations, plus des associations de harkis qui avaient été assez marginalisées dans la ville, vivant dans des baraquements assez sordides, etc. Et Georges Frêche va leur construire d'ailleurs un lotissement, pas très très loin du Lez d'ailleurs, avec des petites maisons, etc. Et puis essayer de leur trouver des emplois. Donc il y a un rapport qui se crée avec cette communauté pied-noir importante à Montpellier. Il faut savoir que jusque dans les années 2000, les gens qui sont arrivés d'Algérie, plus le fait qu'ils aient eu des enfants, plus que ces enfants soient mariés, plus que, etc., ça représentait au moins 25%, voire 30% de gens qui étaient touchés par le phénomène pied noir.
C'est incroyable, c'est très important hein, pour les gens qui sont maintenant en 2019. Et ils ont du mal à imaginer à quel point le poids de ces rapatriés pouvait peser dans la politique locale.
Absolument. Et puis, je parlais donc de Jacques Roseau, hein, qui a été important dans ce lien, et puis Gilbert Roseau, qui est son cousin, et qui est dans l'équipe municipale. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment du putsch, les gens, les putschistes...
Décidément, Alger, les putschs, on connaît.
Oui, voilà. Les putschistes, donc, contre Georges Frêche, ont essayé de convaincre Gilbert Roseau, et Gilbert Roseau va faire partie des deux personnes qui effectivement font basculer ce rapport de force, l'autre étant Joseph Fenoy, et qui étaient radicaux de gauche et qui vont passer au Parti Socialiste et se rallier à Georges Frêche, ce qui fait que Georges Frêche ne sera pas mis en minorité dans son propre conseil municipal et qu'il va avoir réglé, mais on verra ça ultérieurement.
Oui, ça, quand on avancera encore dans l'histoire.
Avec François Mitterrand, dont je rappelle qu'il était à l'époque le patron du Parti Socialiste au niveau national. Et il n'était pas encore président de la République. Et c'est vrai que 1981...
Premier secrétaire, on disait.
Voilà. Et c'est vrai qu'en 1981, François Mitterrand devient président de la République et que enfin le projet d'Antigone va pouvoir voir le jour et commencer effectivement à se développer et changer la ville. On en parlera probablement une prochaine fois parce que je pense que Antigone, c'est pour moi, on peut ne pas aimer l'architecture d'Antigone,
mais c'est quand même la révolution.
Oui, c'est un autre sujet. Mais c'était une manière de dire non, on peut faire de l'urbanisme autrement, on peut avoir du logement social au centre-ville s'il y a une volonté politique. Et c'est vrai que la place du Nombre d'Or que tout le monde connaît, cette place en forme de trèfle, c'est exclusivement du logement social. C'est ACM, qui est le propriétaire.
Le propriétaire de ces logements.
Et Georges Frêche avait dit, moi, s'il y a une volonté politique, on peut construire du logement social au centre-ville, alors que c'était absolument impossible à cause du coût du foncier. Je vous expliquerai une prochaine
une
fois comment on pouvait le faire. Et en même temps, il avait dit, on peut construire du HLM qui ne ressemble pas à des cages à lapins.
Alors, en effet, alors cet Antigone, alors, comme vous dites très justement, avec le recul du temps, là aussi, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui a fait que la ville de Montpellier se transforme. Antigone, c'est quand même visible. Et c'est en 82, à peu près, non ?
Oui, c'est-à-dire que quand Mitterrand est élu président de la République,
ça c'est en 81,
une petite histoire, en 1981, le fameux 10 mai 1981, et c'est vrai que, bon, ben, ce qui se passe à chaque fois, le préfet change, le préfet qui était aux ordres de Giscard d'Estaing et de son gouvernement
Valérie.
Avait bloqué le projet d'Antigone de Georges Frêche, et donc dès que le nouveau préfet arrive, eh bien...
Il donne le feu vert, on peut dire ?
Il donne le feu vert, l'Élysée dit allez-y, quoi. Et donc, tout de suite, le feu vert et les premières grues s'installent.
Eh bien, écoutez, on verra la suite dans une prochaine émission de Hier, c'est demain. On va continuer, je pense, là, on va continuer un peu dans la chronologie. On va passer au deuxième mandat de Georges Frêche, qui devient de plus en plus un peu l'impérateur de Montpellier, quand les détracteurs disaient que c'était un tyran.
On verra. Je rappelle qu'à Rome, les dictateurs étaient élus.